Bonjour à tous. Nous remercions le Seigneur vraiment pour ce temps, les temps qui nous fait vivre ensemble. Merci Anna pour cette conduite. Et je vais continuer ce qu'Anna a présenté quelque part ce matin, point d'introduction. Qui était là il y a 15 jours? Voilà. Je peux poser la question, qui a pu mettre en œuvre ce qui a été partagé? Parce que ça, c'est quelque chose que le Seigneur travaille dans nos vies tous les jours. De prendre conscience qu'il nous rejoint dans notre réalité pour nous amener dans sa réalité. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous accompagner, c'est un des principes de Dieu. Moi, j'aime me nourrir de principes de Dieu qui sont... Je sais qu'ils ne changent pas. Dieu construit toujours de la même façon. Et c'est une beauté de justement travailler, de se laisser travailler par la parole et par l'esprit qui nous en fait comprendre comment le Père, le Fils et l'Esprit travaillent ensemble pour nous construire, pour nous rejoindre et nous amener évidemment à cette stature parfaite de Christ. Et ça, c'est une dimension qu'on va partager ce matin. Je veux dire, dans une découverte maintenant pratique de ces choses-là. Hein. On a parlé de conception, donc et l'importance de finalement de prendre conscience que ma conception de Dieu peut m'amener à être à côté de Dieu et non pas en Dieu. Et j'ai besoin dans mon identité d'être vraiment conscient de cela, parce que mon identité, elle est complètement contenue dans le tout est accompli. Et le tout est accompli amène la réalité de l'esprit du Père et du Fils dans ma vie quand j'accepte Jésus, et la présence du Fils. Et l'identité du Fils, c'est mon identité. Elle n'est pas une identité simplement de fils ou de fille, mais elle est réellement une identité de fils-fils et de fille-fils. C'est-à-dire, pour moi, c'est la clé. C'est pour ça que je le livre, et puis je répète, et je répète, et je répète. Chaque fois, je me retrouve partout, dans toutes les réunions, avec des étudiants, ainsi de suite, de prendre conscience de cette réalité, parce que ça, c'est la clé. La clé qui m'amène à travailler là où le Père travaille, à faire ce que le Père fait et de réjouir le cœur du Père parce que finalement je me nourris, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père à travers le Christ qui est en moi. Donc ça, c'est ça la nouveauté de vie, c'est ça la nouvelle naissance. Et nous allons le voir aujourd'hui avec un personnage que je prends dans la Bible plutôt que d'apporter un témoignage. Je prends un personnage de la Bible qui est mon Père, hein, qui est votre Père. Abraham. Voilà, donc on va faire un parcours avec Abraham, mais en restant simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais on va rester simplement sur la construction, comment Dieu va prendre cet homme, qui est un Chaldéen, un Babylonien, pour l'amener finalement à être le père des nations, mais le père aussi de celui qui va engendrer cette nation d'Israël. Cette nation d'Israël qui est dans ses reins. Eh bien, comment Dieu va amener cet homme dans sa destinée? Ça, c'est notre réalité. Moi, j'aime bien lire la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que la vie d'Abraham, c'est ma vie. C'est-à-dire, Dieu est venu me chercher, j'ai accepté, et après, c'est une marche. On continue depuis maintenant, combien? Je ne sais plus, 45 ans. Et ce n'est pas fini. Et de découverte en découverte de relations dans l'intimité avec le Seigneur, dans la parole qui se révèle, eh bien c'est une joie nouvelle, renouvelée à chaque instant. Et c'est pour ça que la conception arrêtée m'amène finalement à me mettre à un côté de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, et là où Dieu me conduit. Donc j'ai besoin d'être toujours ce que j'appelle une organisation apprenante, que tout mon être soit dans la joie de la découverte qu'est Dieu dans une relation, une intimité, dans quelque chose de nouveau. Et vous savez ce qu'on a en nous? Chaque fois qu'on prend une connaissance, une révélation de Dieu, ça produit quoi dans nos vies? Une jubilation d'esprit. La joie du Père manifestée à travers son esprit qui habite dans le tabernacle que nous sommes. Donc je ne vais pas m'étendre sur le tabernacle, on en a parlé. Mais la beauté qu'on a pu voir aussi, c'est que ce tabernacle de Dieu, qui est finalement cette Jérusalem céleste, eh bien c'est aussi qui? Ben c'est une épouse. Et ça, de comprendre que Dieu, quand il voit les choses, c'est ça le problème, c'est pas comment moi je vois les choses et comment je vais expliquer à Dieu comment c'est. Non, c'est comment tu vois les choses et comment je vais pouvoir les recevoir et voir comme toi tu vois. Est-ce que j'ai compris que cette Jérusalem céleste est une ville? Et si je la regarde comme une ville, qu'est-ce que je vois? Des bâtiments, et ainsi de suite. Je vois les images de la ville. Mais si je comprends que c'est l'épouse, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois un corps, je vois une personne. Je vois des personnes qui sont réunies qui, pour faire le corps de l'épouse. Donc aujourd'hui, comment je vois la ville autour de moi? Comment je vois mon quartier? Comment je vois l'entreprise dans laquelle je travaille? Est-ce que je vois l'entreprise, ses murs, ainsi de suite, bref. Ou si je vois les gens, les personnes qui sont dans l'entreprise. Dieu voit les personnes. Amen. Comment Dieu nous voit? C'était dit tout à l'heure par Anna. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. C'est dans chaque personne des tabernacles réunis qui amènent le tabernacle de l'Éternel, louange, adoration, et vraiment c'est proclamation des merveilles de l'Éternel. Je veux dire, quand nous nous retrouvons, il y a une joie, une intensité, l'Esprit circule en nous et nous fait partager cette réalité de l'unité, de l'érade de Dieu. Il est un. Il produit quoi? L'unité. Mais pas une unité faite des hommes. Une unité qui est faite selon l'ADN du Père, du Fils, de l'Esprit, de cet Elohim qui est un avec l'Éternel, forme un seul Dieu unique qui produit cette réalité. Est-ce que je peux le faire? Non, il n'y a que lui qui est capable de le faire. Et nous avons cette réalité en nous qui produit la réalité de Dieu. Donc ça, gloire à Dieu, nous sommes, Seigneur, nous sommes ouverts. Et nous voulons être encore ouverts ce matin, Seigneur, par rapport à cette réalité que nous allons partager. Donc nous sommes avec Abraham. Il est dit dans Genèse 11 qu'Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la fille d'Abraham, de la femme d'Abraham, était Sarai. Et le nom de la femme de Nakhor était Milca, fille d'Aran, père de Milca et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ou Charan, comme vous voulez, ils y habitèrent. Intéressant, c'est qu'il est parlé de Sarai. Sarai, c'est qui? Eh bien, c'est une, bien sûr que c'est la femme d'Abraham, mais c'est une fille. Abraham et Sarai, ils ont le même père. C'est-à-dire que c'est une fille de son père à travers une autre épouse. Ils n'ont pas la même mère, mais ils ont le même père. Si je regarde Sarai, qu'est-ce que ça veut dire, ma princesse? Chaque fois qu'Abraham va parler à sa femme et lui dire ma princesse, c'est pas lui qui a donné le nom, c'est son père qui a donné le nom. Donc on découvre cette réalité-là. La deuxième réalité qu'on va trouver, qui va se passer dans la parole, c'est le côté Mimi. C'est-à-dire que le fait qu'il soit mi-frère, mi-époux, produit quelque chose dans l'homme, dans Abraham, qu'il fait qu'il est dans le mimi permanent. Et en fonction des situations, eh bien, il va réagir justement avec ce mimi qui lui offre naturellement deux possibilités. Tu mets une épouse, donc il y a des choses qui vont être bien avec l'épouse, et puis, dans certaines situations qu'on va voir, eh bien, tu es ma sœur. Donc, l'important de bien de dire, Seigneur, il va travailler avec ça, et c'est-à-dire, il rejoint Abraham. On a ce verset qui nous éclaire dans Josué 24, 2 et 3. Josué 24, 2 nous éclaire sur qui était le père. Il était polythéiste. Abraham était monothéiste. Il adorait l'Éternel. Donc on voit qu'on est dans une famille qui, naturellement, sur le plan spirituel, est en conflit. Le père polythéiste et Abraham monothéiste. Il adore l'Éternel. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit quelque chose qu'on va voir plus tard, c'est-à-dire que le polythéisme était représenté par les Elohim, ce qui fait qu'Abraham, il ne voulait pas avoir de relation avec Elohim. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était rentré dans le polythéisme. Ça va? C'est une découverte? La deuxième chose qu'on apprend dans Josué 24, 3, c'est ce qu'on a partagé il y a 15 jours, il y a deux semaines. C'est-à-dire que Dieu va venir le chercher, c'est lui-même qui le dit, j'ai pris Abraham de l'autre côté du fleuve, donc c'est l'Euphrate, et je l'ai amené à Canaan. Je lui ai fait voir ce pays, traverser ce pays. Donc, il marchait au nom de l'Éternel, et l'Éternel vient le chercher, et c'est, on commence ici, avec Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Là, nous rentrons dans l'acceptation d'Abraham de quitter ce pays, d'aller dans l'Era, c'est-à-dire au fond de lui-même, de quitter sa maison, de quitter son père, sont pas simplement des mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit quitter sa maison et son père. Et ça, il va le travailler avec le Seigneur. Pour rejoindre quoi ? Pour rejoindre finalement ce que Dieu a déposé en lui, dans sa destinée, et découvrir que sa maison, c'est la maison de Dieu, que son père, eh bien c'est l'éternel Dieu. Ce chemin-là, il faut qu'il puisse le découvrir. Là, il ne le connaît pas. Et Dieu va l'emmener dans un chemin, chapitre 12 à chapitre 22, qui va comporter quoi ? Qui va comporter des épreuves. Ce sont des choses que nous rencontrons dans nos vies, des épreuves, des circonstances, des choses qui finalement sont les moyens pour Dieu de travailler nos vies. C'est-à-dire, les circonstances, les choses que nous vivons sont vraiment de la matière pour Dieu. Des fois, c'est des conséquences de nos erreurs, de nos choix. Nous savons que nous avons la croix pour nous repentir et retrouver le chemin. Puis, et quelquefois, Seigneur, il envoie des tests, il envoie des choses, parce que ça nous permet, nous aussi, de savoir où nous sommes. C'est important que nous sachions où nous sommes. Et Dieu a besoin que nous acceptions notre réalité. Parce que si je m'illusionne, je ne peux pas vivre la transformation. Vous voyez ? Donc, il va vivre 10 épreuves. Il va vivre aussi 7 promesses. 7 promesses, on vient d'en voir une. 7 promesses de l'Éternel, Dieu. Il va vivre 4 autels qu'il va manifester à Dieu. Et puis, une relation. Et ça, j'aime cette relation. J'aime cette relation parce que c'est la relation que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il a une relation particulière. Il vient nous rejoindre dans cette réalité, mais il respecte. Vous savez, il y a quelque chose qui est très fort. Abraham, il était connecté à l'Éternel, c'est-à-dire ce Dieu unique. À la limite, il ne connaissait pas complètement ce que ça voulait dire. Qui était réellement ce Dieu ? Mais cette connexion, eh bien, le Dieu va la respecter. De Genèse 12, 13, 14, 15, 16, il n'est parlé que de la relation avec l'Éternel. La relation d'Abraham avec l'Éternel, une discussion. Il vient se rajouter, en Genèse 14, la rencontre avec Melchisédek. Et Melchisédek, eh bien, c'est elle. Élion, c'est-à-dire le Dieu de l'univers. Alors, juste pour agrémenter ça, vous savez qu'il y a dans le psaume 91, c'est un psaume qu'on a beaucoup, proclamé en 2020, non ? Ça ne vous dit rien ? Mais j'ai simplement les deux premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, vous savez, chaque fois que je lis ces versets, repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces deux versets sont le chemin qui vont être le chemin de l'identité d'Abraham et de Sarah. Celui qui demeure à l'abri d'El Elyon, repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, je dis à Yahvé, mon refuge et ma forteresse, mon Elohim en qui je me confie. 4 noms de Dieu qui vont être le parcours d'Abraham pour naître de nouveau. On le voit. Donc, j'avance, il faut que j'avance. Donc, je resterai sur les je vais dire les points principaux qui vont être Genèse, bien sûr, il y a Genèse 12, Genèse 14, parce qu'il y a cette rencontre avec Melchisédek. Il y a Genèse 17, Genèse 20 et Genèse 22. Donc il est dit que Dieu, l'Éternel va demander, va dire à Abraham, va quitte ta maison, ainsi de suite, prends le, je vais te conduire là sur Canaan, et Abraham s'en va. Il quitte bien sûr l'Euphrate. Lui c'est un chef d'entreprise. Il a des troupeaux et des hommes. J'aime bien la parole de Dieu qui nous dit dans une version qu'il partit de Charan avec les âmes qu'il avait faites. C'est-à-dire on voit bien que c'est un homme qui influence. D'ailleurs il s'appelle Père élevé. Donc il influence, je dirais, les personnes autour de lui. Et les gens qui le suivent sont des personnes qui finalement ont une confiance en lui. Et ce sont les âmes qu'il a faites, c'est-à-dire qu'il a influencé par ses conceptions. Et donc, il part et il va se trouver, il quitte l'endroit qui est favorable à son troupeau pour retrouver quoi ? Vous savez, vous montez l'Euphrate, vous prenez à gauche, et à gauche, c'est le désert. Et là, c'est la sécheresse. Et là, bien entendu, il a déjà fait un autel pour Dieu, parce qu'il a, suite à ce que Dieu, l'Éternel lui a donné, la promesse qu'il lui a faite, il va bâtir un autel. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais simplement, il bâtit un autel. Et puis, c'est cet autel qui est finalement la concrétisation de que il a bien reçu la promesse et qu'il se réjouit et qu'il honore, il adore l'Éternel. Et puis, il se trouve avec la sécheresse. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il bâtit un autel en disant ben, « viens me parler maintenant ». Silence radio. Et là, bien entendu, il va se dire « Dieu, il me protège ». Mais Dieu, il est loin, il est haut, c'était dit tout à l'heure par Anna. Dieu très haut, il est haut, il n'est pas très haut encore, il est simplement haut. C'est éternel, il est distant. Et j'ai des problèmes, ben, je dois me débrouiller par moi-même. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui ont tendance à voir Dieu distant et puis de se dire, quand il y a un problème, ah ben, je me dépatouille par moi-même. Quoi. Hein, j'ai forcément la capacité ou pas de me débrouiller. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, j'ai des besoins à cause de la sécheresse. Pour mon troupeau, j'ai besoin d'herbe, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin pour ma famille, pour mon entreprise. Eh bien, on va aller où ? On va aller dans un coin où il y a le Nil, où la terre n'a pas besoin, il n'attend pas besoin de pluie pour avoir de l'herbe. C'est directement l'eau qui est dans la terre qui va produire finalement cette capacité de nourriture pour mon troupeau. Mais ce pays, il s'appelle l'Égypte. Et là, il y a une femme, Sarai, ma princesse. C'est pas lui qui a donné le nom. Chaque fois qu'il dit le nom, je pense que ça doit lui faire quand même un écho dans sa tête en disant, c'est comme ça que mon père l'a appelée. Donc on voit bien qu'elle n'a encore pas le nom pour lui. Quoi. Et donc, il dit, mais elle est trop magnifique, ma femme. Elle est trop belle. Tout le monde va commencer à vouloir la vouloir. Et pour la vouloir, pour la voir... Ben, ma vie est menacée. Ma vie, mon entreprise, tout est menacé. Et donc il lui dit, écoute, on va aller dans ce pays, les hommes vont vouloir sont intéressés par toi, moi j'ai besoin de préserver ma vie. Hein. Donc tu ne diras pas que tu es ma femme, sinon je suis mort, tu leur diras que tu es ma sœur, le Mimi. Dans une épreuve, eh bien je vais sortir quelque chose qui n'appartient pas à la réalité de Dieu. Et le Mimi qui est là, qui veut utiliser, amène quoi ? Amène finalement ben Sarai, j'irai dans la maison, voire peut-être dans le lit de Pharaon. Consommer, pas consommer, je ne sais pas. De toute façon, la malédiction était tombée sur la maison, veillée par l'Éternel. Et tout d'un coup, Pharaon s'aperçoit que cette personne, cette femme, elle lui pose un problème et qu'en fait, cet homme, il a menti. C'était sa femme, ce n'était pas sa sœur. Donc il envoie tout le monde dehors, quitter ce pays. Le problème qui se passe à ce moment-là, dans le choix d'Abraham, c'est qu'il est allé en Égypte, et en envoyant sa femme, j'allais dire quelque part, dans une possibilité d'être prise par Pharaon, voire même par un Égyptien, mais par Pharaon, eh bien... qu'est-ce que j'irai en tant que femme, en tant qu'épouse, si votre mari vous envoie chez Pharaon pour préserver sa vie, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Pas du tout. Donc, Abraham, il perd finalement cette caractéristique de l'homme d'être celui qui prend soin, qui protège sa famille. D'accord? Ça va avoir une action en deux endroits, vis-à-vis de son épouse et vis-à-vis, finalement, de son entreprise. Celui qui travaille avec Abraham, il va dire, maintenant, si lui, patron, là, il est prêt à envoyer sa femme pour préserver sa vie, ce qui est pour lui certainement la personne la plus précieuse, moi, je n'ai pas de valeur. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je suis foutu. Donc, on peut expliquer, d'ailleurs, la séparation avec Lot, ainsi de suite. Bref. Donc, il va y avoir cette réalité-là. Mais la chose la plus importante qui va se passer, c'est que l'Égypte rentre dans la maison d'Abraham. Il est rentré, est-elle en Égypte, mais quand il s'en va, l'Égypte est dans sa maison. Et l'Égypte qui rentre dans une maison, eh bien, produit les fruits de l'Égypte. C'est-à-dire perte d'autorité de l'homme. Ça ne vous dit rien? Hein? Les choix qui deviennent les choix de l'Égypte. C'est Sarai qui va prendre les commandes. Parce que le mari est disqualifié. Vous pouvez lire la parole. C'est elle qui commence à parler. Qui est-ce qui va proposer l'enfant de la promesse? Eh bien, c'est Sarai qui va mettre finalement cette princesse, je dirais, cette fille de Pharaon, on ne s'est pas dit, mais enfin, qui est une princesse, puisque Dieu va lui dire qu'elle va avoir le même héritage, c'est-à-dire de 12, elle va donner naissance à 12 princes. Donc, pour donner naissance à des princes, il faut être princesse. Donc, c'est vraiment une princesse de l'Égypte. C'est pas n'importe qui. Eh bien, c'est par elle que Sarai va dire, l'enfant de la promesse viendra. Vous voyez? Bon, j'avance. Donc, vous voyez que l'Égypte est rentrée. Alors, on va en vivre quelque chose rapidement. En Genèse 14, c'est la rencontre avec Melchisédek. Et la rencontre avec Melchisédek, nous savons dans Hébreu que ce Melchisédek était sans généalogie, ainsi de suite, sans père ni mère, est une figure où est carrément Jésus, Christ. Mais ce qui est chouette de ce que le Seigneur va faire, qui va aussi être une réponse, toujours dans Hébreu, où il est dit, Abraham quitta son pays, et il partit sans savoir où il allait, et il cherchait la cité de Dieu. Pour moi, je crois qu'en Genèse 14, eh bien, Dieu va lui montrer la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. Il le montre à ce chef d'entreprise, et le chef d'entreprise, il rentre tout de suite dans le phénomène, dans la dimension économique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la dîme de tout. Je ferme la parenthèse. Donc, on voit Hélélium qui va être là. Donc, ça veut dire que pour lui, en termes de conception, il avait la conception d'un Dieu qu'il protège. Mais comme il rencontre à travers Melchisédek, qui est un sacrificateur du Dieu très haut, d'Hélion, de ce Dieu de l'univers, il découvre que finalement, ben Dieu est plus grand, plus haut, plus conséquent que ce qu'il connaissait de Dieu. Vous voyez, c'est le parcours de la relation. On saute maintenant en Genèse 17, qui est un bijou. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut, donc il est à 99 ans, ça veut dire que Sarai a 89 ans. C'est important. L'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Yahvé apparaît à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant, Tout-Suffisant. Mais le Shad, en hébreu, c'est la mamelle. Si vous mettez à la place, enfin avec Abraham, c'est une conception d'un Dieu, mais qui est un Dieu distant, Donc il marche, il sait qu'il gère ses journées, il fait ses choix, parce que Dieu lui donne cette responsabilité de gérer sa maison, de gérer sa vie, de prendre des décisions. Mais il n'en réfère pas, il sait qu'il est sous la protection, mais il n'en réfère pas dans ses choix et autres à l'Éternel. Et là, qu'est-ce qu'il découvre ? Dieu va lui parler, et tout d'un coup, c'est plus l'Éternel qui parle, c'est El Shaddai, c'est la mamelle de Dieu qui vient à sa rencontre. Il se retrouve non plus avec un Dieu distant, mais avec la mamelle dans la bouche, qui le nourrit. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il va tomber la face contre terre. C'est ce qui est dit. Et d'ailleurs, il dit, je suis El Shaddai, marche devant ma face, sois intègre, j'établirai, et répète encore, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Elohim, tiens, on n'a jamais entendu parler d'Elohim jusqu'à maintenant. Elohim, Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'extrême. De plusieurs versions. Je ferai de toi des nations, ou je te donne à des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Quatrième facette de Dieu, Elohim. Le choc, Elohim qui lui parle. C'est le choc. Pourquoi ? Parce que pour lui, Elohim n'était pas associé avec le Dieu unique. Elohim était associé au polythéisme, au Dieu de ses pères, au Dieu des patriarches. Donc là, on imagine que tout d'un coup, il est complètement ébranlé par cela. Il n'a encore pas découvert que ce Elohim, c'est le Dieu famille. C'est le Dieu qui construit cette bâtisseur. Elohim, on l'avait vu là, il y a 15 jours, dans Genèse 1, c'est celui qui va faire assurer la création, bâtir. C'est le travail du Père et du Fils, de bâtir, de construire, d'élever. Nous sommes, en étant fils et filles, fils, et bien nous devenons des bâtisseurs. Et nous sommes appelés à bâtir. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ta vie, si tu penses que tu n'as rien à faire, je te rassure, tu es un bâtisseur. Dans ton identité en Christ, en étant fille, fils, 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 tu es bâtisseur, parce que tu vas travailler avec le Père pour bâtir. Pour construire quoi ? Pour amener le royaume de Dieu. Tous les jours, si tu mets ce point d'ancrage avec le Seigneur, dans cette réalité qui est réalisée à travers le tout est accompli, eh bien, tu es un bâtisseur. C'est-à-dire que cette société ne te fait pas peur, parce que tu sais que Dieu a un plan de restauration. Il a un plan pour mettre en place son royaume, pour mettre en place ses principes, pour mettre en place des principes de vie qui vont changer, finalement, tous ceux qui seront autour de toi. Dans cette année 2025, nous savons qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dieu rétablit son plan de façon à reconquérir les terres qui lui avaient été saisies par l'ennemi. Et nous sommes dans les territoires que Dieu nous a donnés à planter cet arbre de vie que nous sommes en Christ, en nous. Ok ? Ça vous parle ? Non mais il faut être joyeux, hein ? Non, il faut être joyeux. Ce n'est pas nous qui bâtissons, celui qui bâtit la maison, ce n'est pas nous qui bâtissons, c'est l'Éternel. Si l'Éternel nous bâtit la maison, mais ceux qui travaillent en vain. Et bien là, nous savons que finalement, puisque c'est l'Éternel qui bâtit la maison, je ne travaille pas en vain et j'ai la joie et je travaille dans le repos. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas affolés par ce qui nous entoure, mais comprenons où est-ce que Dieu travaille à travers nos vies. Et réjouissons le cœur du Père de pouvoir travailler, de ce qu'il nous offre, la capacité de travailler en tant que fils, j'allais dire, sur le territoire que Dieu nous a, où il travaille. D'accord ? Ça, c'est une beauté de Dieu de pouvoir nous associer à tout ce qu'il fait. Je dois me lever le matin, glorifier Dieu, merci pour cette journée que tu as faite, parce que nous allons manger, marcher ensemble, nous allons travailler, et tu vas me montrer là où tu travailles, parce que je veux, et je, parce que je sais que je vais prendre plaisir à travailler là où tu travailles. Que je vais réjouir ton cœur, et puis qu'est-ce qui va se passer? Puisque je vais marcher par la foi dans les choses que je suis en train de faire, eh bien Christ en moi se nourrit de quoi? Il se nourrit de ma foi. Et il grandit en moi. Et je veux dire, comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça, j'ai l'assurance dans mon obéissance que finalement, c'est la réalité qui se passe dans ma vie. Alléluia. Alors, ce n'est pas fini l'histoire. Parce que non seulement il va Elohim change le nom d'Abraham, mais il dit après, Dieu dit à Abraham, donc Elohim dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, donc ma princesse, un nom qu'il était difficile pour Abraham de vivre, parce que c'était le nom que le père avait donné à sa femme. Donc sa princesse. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et elle deviendra des nations et des rois de peuples sortiront d'elle. Donc il est dit qu'Abraham tomba sur sa face une fois de plus. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah était âgée de 90 ans. Enfantera-t-elle ? Elohim va changer les noms. Il va rajouter quoi ? Une lettre. La lettre qu'il rajoute dans Abraham, c'est un « hé ». La lettre qu'il met au cœur d'Abraham, c'est un « hé ». La lettre qu'il met au cœur, à la fin du nom de Sarai, c'est un « hé ». Ma question, où est-ce qu'il a pris ces « hé » ? On sait que le « hé » vaut 5, hein, et 5 plus 5, ça fait 10. D'un coup, on voit tout de suite la main de Dieu qui est là, la bénédiction de Dieu qui est là. Et en fait, on découvre dans Yahvé qu'il y a deux lettres, « yud » et « vav » et. Il y a un « et » au milieu et un « et » à la fin. Elohim vient prendre dans le nom de l'Éternel les lettres qu'il va rattacher et qui vont produire le projet de Dieu pour ce couple. Vous voyez ? C'est une beauté. C'est une beauté. C'est extraordinaire. Donc, il le met au cœur, c'est la lettre qui était au cœur du nom de Yahvé, il la met au cœur du nom d'Abraham. Et la lettre qui était à la fin de Yahvé, il le met à la fin du nom de Sarai. C'est-à-dire que Sarai va venir s'accrocher au cœur du nom de son mari. Vous voyez ? Alors, nous sommes là. Ah, j'ai perdu des choses, moi. Nous sommes là dans ce chapitre-là. Où les deux noms vont être changés. Alors nous, en bons chrétiens, on se dit, l'affaire est réglée. Je suis né de nouveau, tout va bien. Alors, on va vivre maintenant un autre exercice en Genèse 20. Je vais dire, cette nouvelle naissance personnelle, c'est une étape individuelle. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire à Abraham, elle est nécessaire à Abraham pour qu'il devienne Abraham, selon le cœur d'Elohim, et puis à Sarai, qu'elle devient Sarah, selon le cœur d'Elohim, en portant, bien entendu, j'allais dire, cette caractéristique d'être connecté, j'irais, dans leur point d'ancrage relationnel avec l'Éternel. Vous voyez ? Moi, je vois ça comme étant une sécurité, c'est-à-dire que Dieu va nous respecter dans ce qui fait que nous accrochons à lui, et il vient mettre finalement un point d'ancrage sur lequel on pourrait passer tous les chapitres. Je vous assure que c'est magnifique. De voir que Dieu, je sais que Dieu a mis ce point d'ancrage en Christ, dans une réalité de la Trinité, de Dieu, et ainsi de suite. Et ce point d'ancrage en Christ, qui est en moi, qui est en nous, eh bien celui-là, c'est notre assurance, c'est notre stabilité, c'est notre rocher, c'est celui qui a tout accompli, c'est le sang versé, c'est la croix, c'est l'accomplissement, c'est la réalité du projet du Père. D'accord ? Et c'est le projet de l'épouse. Et c'est le projet, ainsi de suite, de tout ce que Dieu a prévu jusqu'à la fin des temps. Donc, on va se retrouver maintenant en Genèse 20. Abraham partit de là, d'où il était, pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Ça recommence. Le Mimi, il ressort quand ? Mais il ressort quand je suis pas à l'aise. Quand je commence à perdre mon assurance. Quand je commence à avoir la trouille par rapport à ma vie. Donc il y a des choses encore à gratter là. C'est formidable. Disait de sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Elohim apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit. Deux choses importantes là. Abimélec, il s'intéresse à Sarah. Alors autant, je veux dire, quand ça s'est passé avec Pharaon, on peut le comprendre, elle était magnifique. Elle avait 65 ans, hein, c'est ça ? Abraham avait 75 ans. Donc 65 ans, pas de problème, elle était une super femme. Et alors celle-ci, Pharaon, il la voulait absolument. Plus belle que Sarai, tu ne trouveras pas. Mais là, je veux dire, elle a 90 ans. Elle a 90 ans. Alors, moi je veux bien que le Seigneur l'ait conservée, ainsi de suite. Mais Abimélec, il nous a dit quelque chose derrière. Qui est-ce qui va parler à Abimélec ? C'est Elohim. Donc il y a une relation particulière, puis on va le voir derrière, entre Abimélec et Elohim. Et pour Elohim, c'est qui ? Pour Abimélec, c'est qui Elohim ? Ben c'est ce Dieu qui construit sa famille. C'est-à-dire qu'il a une relation avec le Dieu famille. Et quand il voit Sarah, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit l'onction d'Elohim. Parce que c'est lui qui a changé le nom, qui a donné ce nom nouveau. Donc l'onction d'Elohim est sur cette femme. Et cette onction, il la veut dans sa maison. Donc il l'enlève, puisqu'il est sans problème. Cette femme, c'est sa sœur, c'est pas sa femme. Donc il n'y a aucune raison pour que cette femme ne vienne pas dans ma maison et bénisse ma maison, qu'elle amène l'onction d'Elohim, qui me permettra d'avoir finalement une famille, vraiment de gagner, j'allais dire, dans une perspective de pouvoir établir ma famille sur cette terre. Vous voyez ? Et là, la beauté de Dieu, cette nouvelle naissance, parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Seigneur ? Il est en train d'enlever l'Égypte du cœur d'Abraham et de Sarai. Et d'enlever, bien entendu, les conséquences de l'Égypte. Donc là, on est dans une nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance du couple. Et le couple va naître selon le cœur d'Elohim. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien voilà, 9 mois plus tard, Genèse 21, l'enfant de la promesse arrive, Isaac. Déjà annoncé par Abraham qui avait déjà rigolé. Hein. Vous voyez comment Dieu travaille ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Non, mais c'est merveilleux. Moi, je me régale quand je lis la parole. Elle nous montre finalement une relation avec le Seigneur. Et je sais que le Seigneur, il travaille de la même façon dans ma vie. Il travaille de la même façon dans ma maison. Il va travailler de la même façon sur mes enfants. Donc même si la situation aujourd'hui, je peux l'avoir avec dans un brouillard au niveau d'identité, enfin disons de la destinée de mes enfants, je sais que l'Éternel travaille jusqu'au jour où tout va s'éclaircir et ils rentreront dans leur destinée. Moi-même dans ma vie, ben, je sais que le Seigneur prend soin et m'amène justement dans ce qu'il a prévu pour ma vie. Ça va ? Hein ? Alors est-ce que c'est fini ? Ben non. Ben non. Pourquoi ? Ben parce que finalement, cet homme, il est appelé père. Père élevé, il est devenu père d'une multitude de nations. Est-ce qu'il est prêt pour être père d'une multitude de nations ? C'est la bonne question. Donc là, on arrive à la ligature d'Isaac. Vous la connaissez ? Vous connaissez ça par cœur ? Donc il monte pour sacrifier son fils sur cette montagne du Morija. Et puis, ben, Isaac, il monte avec lui. Alors Isaac, c'est pas un gamin, il n'a pas 5 ans, 6 ans. Moi, je considère que finalement, Genèse 12, 75 ans, Dieu a l'habitude de travailler sur 40 ans. Hein, c'est la dose pour Moïse. Je dis pourquoi Abraham aurait été épargné. Donc on va compter plus 15, ça fait... Oui, ça fait combien? Ça fait 115. Il a 75 plus 40, ça fait 115. C'est-à-dire que le fils, il a à peu près 14-15 ans, quoi. Donc on voit bien, c'est un jeune homme. Hein, voilà, puis on voit bien qu'il est costaud. Il lui file à porter des trucs que lui ne veut pas porter. Donc c'était 4-5 ans, et il n'a peut-être pas chargé son fils comme ça, avec du bois, avec ainsi de suite. Et le fils lui dit, mais attends papa, nous on est en train de monter là-haut pour sacrifier, tu as dit à l'Éternel, il y a du bois, on a de la flamme, mais où est l'agneau? Et là, il lui dit, mais Elohim va pourvoir à l'agneau. D'accord? Donc après, on connaît toute l'histoire. Je vais au bout. Qu'est-ce qui est sacrifié sur l'autel quand finalement l'ange a arrêté le geste du père vis-à-vis de son fils pour sacrifier le fils? Et il l'arrête, et puis après il lui montre dans le buisson un animal qui va être finalement sacrifié sur l'autel. C'est un agneau? Hein? C'est un bélier? Un bélier. C'est-à-dire bélier par rapport à l'agneau, c'est quoi? C'est le père. Donc on est dans la troisième étape, c'est-à-dire qu'Abraham va sacrifier la conception du père sur l'autel. Vous voyez? Il fonctionnait de la même façon que Térak. Vous voyez, quand même dans l'opposition qu'il pouvait avec son père, il était soumis. Il suivait son père. Il est parti d'Ur en Chaldée pour aller à Charan. L'objectif, c'était Canaan. C'est pas lui qui va initier ça, c'est son père, c'est Térak qui avait reçu ça. Mais Térak, il n'était pas abouti dans sa relation avec Dieu. Il était dans une relation qui le servait avec ses dieux, en étant polythéiste. Donc il s'est arrêté là où il pouvait aller, je dirais au bout de l'Euphrate, à Charan. Mais c'est le fils qui a été appelé à aller au bout, à porter les choses. Hein? Eh bien, cette réalité-là, il vivait avec ce concept du père selon son père, pour entrer dans son identité, sa nouvelle identité, dans ma nouvelle identité, en Christ, pour rentrer dans cette nouvelle identité d'être père d'une multitude de nations, il fallait qu'il puisse changer une métanoïa dans sa conception et qu'il devienne un père selon le cœur d'Élohim, selon le cœur du bâtisseur, selon le cœur du créateur, selon le cœur de celui qui est en train d'engendrer toutes choses afin de remplir la maison du Père. Où est-ce que j'en suis dans ma vie par rapport à tout ça? Est-ce que j'ai fait simplement une première nouvelle naissance identitaire? Est-ce que dans ma maison, avec ma femme, est-ce que nous avons fait une nouvelle naissance selon le cœur d'Élohim? Est-ce que je suis toujours dans le mimi? Est-ce que finalement, dans mes programmes, est-ce que je mets en priorité ce qui me convient quand ça me plaît? Et puis, ce qui convient à ma femme quand ça nous plaît. Est-ce que je suis capable de chercher la face de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend? Où est-ce qu'il travaille? Où est-ce qu'il m'envoie? Où est-ce qu'il me dit de rester? Nous avons appris avec Josette à nous être en accord chaque fois pour toutes les décisions, quelles que soient, même quand c'est le Seigneur qui conduit les choses. Chaque fois que je partais à Madagascar, eh bien, il fallait qu'on soit en accord pour que j'aille à Madagascar. Je n'y allais pas pour moi. Je n'y allais pas parce que le Seigneur m'envoyait. Mais j'avais besoin aussi d'être lâché par mon épouse. Parce qu'en étant lâché par mon épouse, je savais que j'étais toujours en lien avec elle, mais surtout que la protection de Dieu était dans la maison. Dans mes décisions en tant que mari, comment je les prends? Dans mes décisions en tant qu'épouse, parce qu'il ne parlait que d'Abraham, mais Sarah aussi est devenue finalement, a été guérie et est devenue une mère selon le cœur d'Elohim, qui est devenue cette princesse. Pas ma princesse, la princesse, une princesse qui était donnée, où chacun peut dire ma princesse, plus une princesse, qui appartenait au père selon la chair, mais une princesse qui pouvait toucher finalement toutes les personnes qui étaient engendrées à travers avec Abraham. Est-ce que maintenant aussi, dans ma conception de père, je fonctionne selon des principes que j'ai appris de mes pères, de mon père, et lui-même de son père? Je suis encore d'une génération où il y a des choses qui se passent, où les choses, pour mon père, c'était très carré, rigide et pas de problème. On savait manipuler, utiliser la trique, le martinet, des choses qui finalement donnaient du sens à une demande. Hein? Voilà, c'est-à-dire que très rapidement, le fait que je ne sois pas d'accord, ça ne résistait pas. Hein? Ça ne résistait pas. Aujourd'hui, on peut traîner dans les tribunaux si j'ai l'intention de faire quelque chose, hein, avant même que je fais quoi que ce soit. Hein, un enfant peut déposer plainte par rapport à son père, avant même qu'il ait été touché. Donc on voit bien qu'on est dans un monde renversé. Est-ce que c'est la bonne solution avant et c'est la bonne solution maintenant? Évidemment, les deux sont pas bonnes. Ce qui est important, c'est comment Dieu construit. Donc, tout cela pour dire, ça va, vous avez suivi ce parcours, vous allez le relire dans la parole, ça va être remarquable. Moi, je me régale, chaque fois que je le relis. Je vous donne une confidence, c'est que je l'utilise même pour les formations, c'est-à-dire dans les... Pourquoi? Parce que tout ce parcours relationnel entre Abraham et l'Éternel, Abraham et puis Elohim, ainsi de suite, enfin, les différentes figure que Dieu va montrer à Abraham pour le construire. Ça, on n'est pas en train de parler on n'est pas dans le polythéisme là. On est simplement où Dieu vient nous rejoindre et nous amène une figure qui va nous amener une transformation dans nos vies. C'est-à-dire que je ne peux plus regarder Dieu de la façon que je l'avais conçu. Je suis obligé de faire rentrer cette nouvelle révélation qui élargit finalement. Aujourd'hui, c'était partagé par Anna. On ne peut pas rester avec un Dieu qui est trop loin, qui est lointain. Non, parce que nous, aujourd'hui, maintenant, on a le Christ en nous, on a l'Esprit du Père et du Fils. Donc, évidemment, on a une vision qui est renouvelée à chaque fois que nous partageons avec lui, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous lisons la parole, à chaque fois que nous sommes ensemble. Il y a une réalité qui se passe, qui s'appelle la vision de Dieu pour les nations. Et je bénis Israël. Vous savez, nous sommes dans les 10 ans... particulière, bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais on est pour moi dans 10 ans où on marche au rythme d'Israël, c'est-à-dire nous sommes dans les fiançailles de l'épouse entre Israël et l'Église. Je dois comprendre ce travail, parce que je sois d'accord, pas d'accord, que j'ai compris, pas compris, ça ne change rien, Dieu travaille. C'est ça qu'il faut savoir, Dieu travaille, il n'arrête pas le processus. Mais si je rentre dans le processus que Dieu est en train de faire et que j'accepte, même si je ne comprends pas au début, qu'il y a un travail de l'esprit et de la parole dans ma vie, évidemment, ça va changer ma vie. Ça va changer mon regard. Ça va changer ma façon de voir les événements autour de moi. Et nous sommes aujourd'hui préparés pour les temps qui viennent. Je ne peux pas dire comment ils vont être. Peu importe. Moi, je dis, Seigneur, de toute façon... Il se passera, ce qui se passera, ce n'est pas le problème. Par contre, ce qui est le problème, c'est que moi je réponds oui et amen, Seigneur, à ta sollicitation pour que le changement se passe dans ma vie. Parce que c'est ça qui est important. Et je veux réellement, cette année, planter chez l'arbre de vie que je suis partout ou dans les territoires que Dieu m'a confiés. Et me réjouir de voir comment l'Esprit, l'Éternel Dieu est en train de travailler, comment Christ travaille. Comment le Fils travaille avec le Père. Une réjouissance. Vous sentez battre le cœur du Père là, dans votre à l'intérieur. Vous sentez l'Esprit se réjouir. Vous sentez le Christ en nous, l'espérance de la gloire, manifester finalement cette élévation, cette adoration auprès du Père. Cette joie de dire... Seigneur, je n'en ai perdu aucun, sinon le Fils de celui qui devait déclencher le processus, le Fils de la perdition. Mais celui-là, ce Fils-là, Il était nécessaire dans le plan de Dieu pour amener Christ à la croix. Parce que ça passait par le choix des hommes. Et Dieu respecte toujours le choix de l'homme. Mon choix va déterminer la capacité de Dieu à travailler ou à rester tranquille, respectant, attendant l'heure que j'ouvrirai la porte. Donc je vous encourage, je nous encourage à ouvrir nos portes intérieures. Nous puissions le soir en disant, Seigneur, je t'ouvre toutes les portes. Moi, je vais dormir, mais moi, je vais te laisser travailler dans tout mon être. Parce que demain sera un jour nouveau. Et demain, je vais me lever et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et je pourrai lire, comprendre ce que tu as prévu dans cette journée, dans notre travail ensemble. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être des services, ça peut être simplement de l'écoute. Écoutez celui qui est en difficulté et qui a besoin de parler. Vous voyez ? Elle n'est pas belle, la vie ? Elle est magnifique. Nous marchons avec celui qui est en train de nous construire, avec celui qui est en train de bâtir l'épouse. Et n'oubliez jamais de ce qui est dit, on a vu là il y a 15 jours, que quand nous faisons les œuvres justes, les œuvres de justice, préparé par l'Éternel Dieu, eh bien, nous en sommes en train de faire le vêtement de l'épouse. Nous participons, j'allais dire, à construire le vêtement de l'épouse sans couture. C'est pas dit sans couture, mais ça fonctionne pas autrement avec Dieu. Il est sans couture. J'allais dire, le vêtement de Jésus était sans couture. Ce que fait Dieu, c'est sans couture. Notre relation, pour qu'elle tienne, elle est sans couture. C'est celle-ci que Dieu est en train de construire. Ce n'est pas un truc des raccrocs, de faire des nœuds mais qui tiendront, tiendront pas. Non, non, c'est sans couture. J'arrête là. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous voulons vraiment laisser rentrer cette réalité de construction, Seigneur. Nous avons besoin vraiment de vivre vraiment ce principe de vie qui est en toi, Seigneur, c'est de nous rejoindre dans notre réalité, Seigneur, pour marcher avec toi, pour aller dans ta réalité, dans les choses que tu as prévues. Étape par étape, Seigneur, tu nous fais rentrer dans le projet. Tu rétablis, Seigneur, toutes les situations. Seigneur, dans notre vie, premièrement, dans notre maison, deuxièmement, dans notre famille, troisièmement, Seigneur. Et comme Abraham, Seigneur, nous rentrons vraiment dans cette réalité d'être un Abraham, père d'une multitude de nations, et non pas rester un père élevé qui prend finalement la gloire pour lui, mais père pour une multitude de nations, c'est Seigneur qui peut communiquer ce que tu es, qui peut se réjouir de travailler avec toi, de pouvoir amener, Seigneur, la réalité de ton plan de vie, ton plan de salut, ton plan, Seigneur, de réforme. Bien, Seigneur, que cette réalité, Saint-Esprit, tu viennes la dévoiler pleinement, Seigneur, dans tout notre être. Corps, âme, esprit, Seigneur. Ou esprit, âme et corps, pour être dans la logique de toi, Seigneur. Parce que tu commences par l'esprit. Tu viens changer l'âme. Tu viens rassurer l'âme. Et nos corps, Seigneur, sont régénérés par ta vie. Eh bien, Seigneur, esprit, âme, corps. Seigneur, que tout notre être, Seigneur, soit rempli de ta gloire, de ta connaissance. Seigneur, de ta sagesse, de ta magnificence, Seigneur, afin que Christ en nous puisse trouver toute sa réalité, Seigneur, produire le tout est accompli, être cette parole, Seigneur, qui vient toucher tous ceux que tu mets sur notre route, afin qu'ils connaissent celui qui a donné sa vie pour eux. Ce n'est pas Pierre, Seigneur, c'est Christ, Pierre, et c'est Christ qui vient les rejoindre. Seigneur, donne-nous d'être dans cette dimension, d'être ouvert afin que ce fleuve qui sort de ton trône, de ton cœur, Seigneur, puisse être déversé avec force, que rien, Seigneur, ne retienne la vie, ne retienne, Seigneur, la résurrection, afin que ceux qui sont touchés puissent être gagnés, Seigneur, par ton amour, par ta bonté, ta fidélité, et qu'ils soient poussés à la repentance, et qu'ils acceptent Christ, et qu'ils rentrent, Seigneur, aussi dans leur héritage et leur destinée. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu viennes vraiment nous établir ce fondement au fond de nous, afin que nos jours, jour après jour, Seigneur, sur des jours après jours différents, Seigneur, remplis de ta présence, de ta vie, que la parole nous parle, que l'esprit agisse, que l'esprit ne soit pas mis en repos. Nous voulons au contraire, Saint-Esprit, que tu sois agissant dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous te confions, Seigneur, nos vies, mais nous te confions nos couples. Et nous confions, Seigneur, nos maisons. Et nous te confions, Seigneur, la maison dans laquelle nous sommes, cette communauté. Aussi, nous te disons, Père, que ta volonté soit faite, que tu puisses construire selon ce que tu as prévu, que nous soyons vraiment des familles, familles selon ton cœur, des communautés, familles selon ton cœur, une église, famille selon ton cœur. Alléluia, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.